Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on reviendra sur la réunion du comité local d'aide aux victimes sur les violences conjugales et on parlera notamment de la prise en charge des auteurs de violences conjugales dans la Vienne. Et maintenant, on revient sur la réélection de la présidente de l'université, Virginie Laval, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, tout juste après votre réélection. D'abord peut-être un bilan de votre premier mandat. C'était votre premier mandat. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors, sans entrer évidemment dans l'ensemble du bilan sur ces 4 dernières années, peut-être 3 éléments que je souhaite porter à la connaissance des auditeurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont des marqueurs forts de l'Université de Poitiers. Peut-être le premier, c'est la trajectoire visible de notre université. Une université durable et responsable, selon le modèle d'université dans la cité, avec une signature fondée sur 3 objectifs de développement durable, tels que l'ONU les a définis, éducation de qualité, santé, bien-être et vie des communautés durables. Ça, c'est vraiment la signature de notre université, à la fois pour l'enseignement et pour nos activités de recherche. Donc ça, c'est le premier marqueur fort aujourd'hui. Deuxième marqueur fort, et j'y tiens tout autant, c'est le concept de réussite plurielle de nos étudiants et de nos étudiantes, sur lequel on a beaucoup travaillé et œuvré sur ces 4 années de mandat avec des manifestations très concrètes, comme par exemple la mise en place du guichet social unique avec le CROUS pour la prise en charge de nos étudiants et de nos étudiantes les plus précaires, la mise en place d'un cabinet dentaire au sein de notre service de santé étudiante, une première sur le plan national, et puis dans l'inscription sur notre campus de notre volonté d'ouvrir encore plus à une démocratisation des activités culturelles avec l'installation du Méta sur notre campus qui n'a pas encore ouvert ses portes mais qui devrait les ouvrir très prochainement. Deuxième marqueur, c'est ça, et j'y tiens parce que franchement tout le mandat on a vraiment travaillé dans le sens d'un ensemble de facteurs qui contribuent à la réussite de nos étudiants et on a œuvré en ce sens. Et le troisième marqueur, si je peux me permettre, et très rapidement, c'est un projet que nous avons porté centré sur l'humain, avec vraiment une volonté ferme d'une gouvernance transparente et concertée. J'ai veillé à chaque fois, pour chaque sujet, à ce qu'on mette en place des groupes de travail au regard pluriel, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les étudiants, les collègues en appui, et puis bien sûr le respect de nos instances et élus démocratiquement. Et c'est en ce sens que nous avons travaillé, et c'est aussi un marqueur aujourd'hui de l'Université de Poitiers.
Et qu'est-ce qui était un petit peu à pousser plus loin, à améliorer peut-être, qui vous a motivé à postuler pour un second mandat ?
Mais je crois qu'on a envie de poursuivre l'action que nous avons engagée. Ça a été le sens de ma décision que j'ai mûrie pendant plusieurs mois. Je connaissais le contexte, on pourra peut-être en parler, donc pas simple. Néanmoins, ça vaut le coup de se dire qu'on a encore des choses à renforcer sur notre trajectoire. Aujourd'hui, elle est installée, il faut maintenant l'asseoir et j'ai envie de dire la poursuivre et la renforcer dans toutes ses dimensions.
Alors, vous étiez la seule candidate à cette élection, mais j'imagine que c'est quand même des défis. Là, vous avez assis effectivement plusieurs objectifs. Pour ce prochain mandat, quels sont-ils maintenant ? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis à relever ?
Oui, il y aura toujours des nouveaux défis à relever. Donc, évidemment, le premier défi, c'est de renforcer, évidemment, ce qu'on a commencé à déployer. Et j'ai vraiment envie de travailler dans une perspective de trajectoire européenne pour notre université. Je crois que c'est l'un des éléments les plus novateurs de ce mandat. Aujourd'hui, on a 2 choses essentielles. on a des objectifs de développement durable qui nous caractérisent, à la fois en formation et en recherche, c'est la base de notre signature, et ces enjeux sociétaux, ils sont lisibles à l'international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on pilote une alliance européenne, qui est le premier cercle qui devrait faciliter les coopérations entre les universités partenaires, et je crois qu'on doit maintenant gravir une marche supplémentaire. On doit déployer des masters interdisciplinaires et internationaux, ça c'est important. On doit être en capacité de porter au niveau de la recherche des projets à l'échelle internationale en se servant de ces atouts que nous avons inscrits. Maintenant, allons de l'avant et donnons à cette université une véritable envergure européenne.
Et comment on maintient aussi l'attrait de cette université pour les nouveaux étudiants ?
Alors ça, c'est un vrai savoir-faire de l'Université de Poitiers. Merci de me poser la question. C'est vraiment lié à l'approche que nous avons. L'Université de Poitiers, toute seule pour accueillir ses étudiants et ses étudiantes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment créer un maillage territorial, une dynamique partenariale sur les territoires d'implantation. Et ça, on a su faire sur le territoire de Poitiers, à Niort, à Angoulême, en fonction des collectivités territoriales. Juste un exemple. On est capable aujourd'hui, pour nos primo-arrivants, de porter un œil. Pourquoi ? Parce que le Crous est avec nous, parce que Grand Poitiers est avec nous, Poitiers est avec nous, la région, l'université, et ce sont tous les acteurs qui s'assoient autour d'une même table et qui portent cette dynamique. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Cette dynamique, elle doit prévaloir pour l'ensemble de la réussite étudiante, réussite plurielle de nos étudiants et de nos étudiants. On doit être quelque part une sorte... L'université doit être le chef d'orchestre d'une politique territoriale au service de la réussite étudiante. Et mon rêve, le plus fou, c'est qu'un jour, cette mission vie étudiante soit clairement indiquée dans le code de l'éducation. Aujourd'hui, ça ne relève pas des universités. Or, nous sommes les premiers concernés avec l'ensemble des acteurs autour de la table. Ça ne veut pas dire prendre le lead et décider de tout. Ça veut dire orchestrer sur le territoire pour un meilleur service rendu à nos étudiants et à nos étudiantes.
Vous parliez effectivement d'actions concrètes que vous avez déjà pu mettre en place pour améliorer la vie étudiante. Est-ce que vous avez d'autres initiatives que vous avez déjà en tête pour la suite ?
Oui, il y a quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. On en a parlé, je l'ai déjà exposé lors de ma campagne. On sait faire un bilan social de nos personnels. Je souhaite qu'on lance un bilan social de nos étudiants et de nos étudiantes parce que ce sera un panorama qui va nous permettre de porter, d'orienter des actions. Ça, c'est le premier prochain enjeu de ce mandat. Et le deuxième, c'est un peu dans l'esprit de ce que je viens de vous dire pour la réussite plurielle. L'enjeu, c'est la santé de nos étudiants. Santé mentale, santé physique. Et on doit s'organiser pour une meilleure prise en charge. Encore une fois, le SSE, c'est notre organe en interne qui nous permet cela. Mais tout seul, on ne saura pas faire. Donc on doit tisser des cercles vertueux, d'abord avec les CPTS sur les territoires, c'est important, avec les professions libérales en ville, gynéco, médecine, ophtalmo, etc. Et bien sûr le CHU et le CHL qui sont des acteurs de proximité. On y travaille et on doit tisser cette toile d'araignée nécessaire pour une prise en charge de la santé et de la santé mentale de nos étudiants. Et on aura gagné lorsqu'aucun de nos étudiants ne renoncera à son parcours de soins.
Donc, SSE, c'est le service santé étudiant. Vous parliez de défis. Il est en ce moment d'actualité le budget. C'est un vrai défi pour une nouvelle présidente d'université. Comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là ?
Très compliqué. Je ne vous cache pas que je suis très inquiète et que plutôt que de commencer à déployer le projet, le premier dossier prioritaire qui m'occupe aujourd'hui, c'est la finalisation du budget 2025 dans un contexte national très contraint et avec pour la première fois, j'ai envie de le dire de cette façon-là et aussi marquée, des inquiétudes pour le budget de l'Université de Poitiers. Elle n'est pas épargnée par ce qui se passe au niveau national. Je vous donne juste un exemple pour comprendre la mesure des difficultés que l'on va rencontrer. Lorsque j'ai été élue en 2020, pendant 4 ans, nous avons, l'Université de Poitiers a absorbé plus de 25 millions de charges cumulées non compensées par l'État, entre l'énergie, évidemment, la hausse du coût des matériaux, et des mesures salariales décidées par l'État, non compensées pour les universités. Par exemple, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui est une excellente nouvelle. Parfait. Sauf que l'État nous dit, on décide d'augmenter, mais vous débrouillez pour payer. Donc ça, c'est très compliqué. Plus de 25 millions d'euros non compensés par l'État. Et aujourd'hui, budget 2025, on est en train de nous annoncer que nous allons devoir être en capacité de financer d'autres mesures salariales décidées par l'État, ce qui représenterait chez nous 6,5 millions d'euros supplémentaires. C'est le casse-pension, c'est-à-dire la cotisation des employeurs pour les retraites des fonctionnaires. Et c'est les mesures dites Guérini d'augmentation du point d'indice qui auraient dû être compensées à hauteur de 50% qui ne le sont pas. Donc c'est encore 6,5 millions d'euros supplémentaires. Et donc qui vient peser sur quelque chose qui est déjà fragile à l'université de Poitiers, la masse salariale. Et forcément, on va être obligé de faire des choix très compliqués, qui peuvent venir bouleverser notre campagne d'emploi, qui peuvent nous amener à faire des changements d'orientation sur des projets que nous avions, que nous portions en termes de protection de notre patrimoine immobilier. On est en train de rénover. Peut-être qu'on ne sera pas en capacité de faire tout ce qu'on avait prévu et réduire notre capacité à fonctionner. Et tout ça, ça va être des choix qu'on va discuter avec les directions de composantes et de laboratoires. Mais la situation s'annonce très, très compliquée.
En tout cas, vous êtes mobilisé au niveau national avec les autres présidentes et présidents d'université.
Oui, c'est un mouvement inédit.
Et les étudiants également.
Bien sûr, c'est un mouvement inédit des présidents et présidente d'université, hein, où là, effectivement, tous, on est tous d'accord pour se dire que cette fois-ci, la marche est beaucoup trop haute. On a tous et toutes les universités de France ont largement contribué à l'effort collectif depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on nous annonce, c'est insurmontable pour certaines universités, parce que les mesures sont durables. Pour l'université de Poitiers, on va faire face, si on prend des mesures drastiques pour cette campagne et pour ce budget 2025, mais 2026-2027, c'est la grosse incertitude.
Merci beaucoup Virginie Laval et félicitations pour votre réélection à la présidence de l'université de Poitiers.
Merci.
On continue en musique avec Brittany Davis et Through the Motions. Elle faisait partie des titres du Top Campus de cette année 2024.
Keep on going through the Radio curieuse et citoyenne.
La lutte contre les violences conjugales est une grande cause du quinquennat. On en parle aujourd'hui suite à la réunion du comité local d'aide aux victimes qui s'est réunie il y a une dizaine de jours. Et Préjudice Diaoud Sanga, chef de service des mandats judiciaires et du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales de la Vienne, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous faire un petit bilan de ce comité local d'aide aux victimes qui se réunit une fois par an à cette occasion-là autour de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. D'abord, peut-être, petit bilan, justement, quels sont un petit peu les chiffres, les résultats que vous avez pu partager avec les autres structures? Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, si on dirait.
Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir conviés aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous d'être là et de pouvoir parler justement de cette grande cause et de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Alors, en termes de chiffres, avant d'aborder la question des chiffres, j'aimerais juste préciser. Donc, le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, si vous me permettez l'acronyme, le CPCA, existe depuis bientôt 3 ans, qu'il est né à l'issue d'un appel d'offres du ministère de l'égalité entre la femme et l'homme. Donc, aujourd'hui, nous faisons une prise en charge en termes de chiffres, maintenant, pour répondre à votre question, de 30 stages à l'année. Donc, ce qui représente à peu près 300 personnes, puisque nous avons des groupes qui nous formons en fait des groupes de 10 personnes qui sont reçues par des professionnels, donc des psychologues et des travailleurs sociaux.
On va revenir effectivement sur comment se passe cette prise en charge. En tout cas, les services, que ce soit la gendarmerie notamment, ont constaté une augmentation du nombre de victimes de violences conjugales sur les 10 premiers mois de cette année 2024. Comment est-ce que vous ressentez ça aussi? Comment on se l'explique?
Alors, je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer parce que la question des violences conjugales part d'une dynamique diverse. Il y a des raisons et des explications qui peuvent être pluridisciplinaires. Ce que, à notre niveau, je peux vous donner comme exemple, c'est que très souvent, le discours qu'on a sur les auteurs de violences conjugales, il est parfois vérifiable qu'ils ont eux-mêmes été en amont victimes. C'est dans leur enfance. Ces victimes peuvent prendre des formes diverses et que très souvent, le discours est celui-ci. Donc, l'explication en elle-même ne se justifie pas, c'est juste pas en train de justifier, mais elle peut s'expliquer. Et aujourd'hui encore, on pourrait se demander donc, comment travailler avec ces auteurs-là, comment faire en sorte de les aider justement à sortir de ce cycle de violence. C'est pour ça qu'on propose au sein du CPCA une prise en charge pluridisciplinaire qui prend en charge, enfin qui inclut la prise en charge de la victime dans le cadre du parcours de ce qui est proposé aux auteurs aujourd'hui.
Donc c'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place et qui se perpétue, qu'il faudrait réussir à casser en fait?
Alors oui, c'est un cercle vicieux et souvent, de ce que je peux vous dire, de ce qu'on prend en charge, au-delà du cercle vicieux, il y a aussi une dynamique propre au couple, et une dynamique aussi propre à la constitution de la cellule familiale. C'est différent selon qu'on a des enfants, selon qu'on n'a pas des enfants, selon que le couple est stable ou pas stable, selon que dans le couple, les difficultés que les uns et les autres peuvent traverser, difficultés d'ordre social, professionnel, mental, médical, en fait, toutes ces questions sont prises en compte justement pour essayer d'expliquer et non pas justifier, je me répète, les violences conjugales au sein du couple.
Donc ça existe depuis 3 ans, ce centre de prise en charge des auteurs de violences, avec une forte augmentation de votre activité. Vous étiez d'ailleurs au cœur de ce comité local d'aide aux victimes. Donc cette activité, comment on explique aussi cette augmentation? Est-ce que vous êtes plus connu? Est-ce que ça y est, les gens vous orientent, les auteurs?
Alors oui, on peut dire qu'on est plus connu parce que 3 ans, ce n'est pas non plus une éternité, en sachant que la première année a été une année de démarrage, donc en 2021, la mise en place ne s'est pas faite tout de suite. Ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, les magistrats sont davantage enclins justement à prononcer ces mesures d'alternative aux poursuites, parce qu'on est dans un cadre judiciaire, mais on n'est pas non plus devant un tribunal. Donc les gens acceptent une alternative aux poursuites et réalisent un stage de sensibilisation. C'est aujourd'hui bien identifié, en tout cas pour la partie judiciaire, d'où l'augmentation des saisines. Pour précision, par exemple, on avait démarré démarré l'année 2024 avec pour objectif de réaliser 24 stages à l'année. On finit 2024 à 30 stages, donc en cours d'année, compte tenu de l'afflux des saisines, on a été obligé de proposer de nouvelles dates. Donc je dirais principalement que c'est ça. C'est aussi le fait que le CPCA intègre le discours judiciaire, hein, la procédure judiciaire et la sanction en elle-même, qu'aujourd'hui on fait face justement à cette augmentation et cet afflux qui, à mon avis, n'est pas certain de baisser.
Et justement, avant ces 3 ans, les auteurs, quelle était leur destinée s'ils n'avaient pas ces stages ?
Alors, pour précision, cela existait déjà, mais pas sous la forme du CPCA, c'est-à-dire que depuis 2017 à peu près, on proposait déjà des sortes de stages de sensibilisation, mais qui étaient contenus exclusivement, c'est important de le préciser, dans un cadre judiciaire. Aujourd'hui, la différence avec le CPCA, c'est qu'on va proposer d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va également proposer aux auteurs de violences conjugales des démarches volontaires, gratuites, donc d'où la nécessité de vulgariser ce centre pour pouvoir travailler avec ceux qui, on pourrait dire, ne sont pas encore passés sous la main de la justice, mais qui ont conscience peut-être d'une posture inadaptée, d'une posture violente dans le couple et qui voudraient travailler là-dessus. C'est aller plus loin aussi sur l'accompagnement qui est proposé, puisque au-delà de ce qui a été fait avant le CPCA, dans le CPCA, on propose également une prise en charge post-stage, c'est-à-dire que les auteurs qui sont contraints de faire cette session, ce stage de sensibilisation, peuvent également être pris en charge au-delà du stage. C'est discuté avec les équipes, notamment l'équipe de psychologues, l'équipe de travailleurs sociaux qui intervient pour proposer justement, en fonction de la posture de l'auteur, en fonction de ses besoins et de sa volonté, bien entendu, une prise en charge qui peut s'étaler sur plusieurs mois.
Et en quoi ça consiste un stage de sensibilisation ? Est-ce que c'est déconstruire un petit peu des postures ?
Alors, on travaille sur la déconstruction de la posture, ça c'est certain. D'abord, sous sa formule, j'ai envie de dire normale, en fait, le CPCA, c'est une prise en charge globale. D'abord, il y a un entretien préalable. Donc, l'auteur rencontre un professionnel social qui va faire un entretien préalable, un peu lui expliquer ce qui va se passer pour lui. Ensuite, on a 2 journées de sessions collectives dans des groupes de 10, comme je le disais en tout début, où à l'intérieur le contenu est travaillé avec des psychologues, des professionnels, donc travailler un petit peu sur leur posture, travailler un petit peu sur les conséquences justement des violences conjugales tant au sein du couple, mais on oublie aussi, mais surtout au sein des enfants lorsqu'il y en a. Et ensuite, pour parfaire entre guillemets l'accompagnement, on propose à l'issue de ces deux journées, on propose 3 entretiens post-stage, mais qui font compris, qui sont entendus dans le cadre du CPCA. Donc ça fait une prise en charge qui dure à peu près en moyenne chez nous entre 4 à 5 mois. Donc quand ils viennent au départ, ils ne viennent pas pour un cours, ils viennent pour véritablement une prise en charge et pour travailler. On a évidemment des outils adaptés qui permettent de travailler certaines thématiques en fonction de leurs besoins. On a aussi la possibilité de saisir des partenaires pour orienter, enfin on oriente, notamment lorsqu'on identifie des problématiques en lien avec les addictions, par exemple, les problématiques en lien avec la parentalité, ce genre de choses. Donc tout ça permet finalement de travailler sur plusieurs plans de la violence au sein du couple.
Merci beaucoup Préjudice Diaoud-Sanga, donc chef de service des mandats judiciaires et du CPCA, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales de la Vienne, d'être venue nous parler de cet aspect qu'on aborde moins souvent. On parle beaucoup des victimes mais rarement des auteurs. Merci beaucoup.
Merci à vous, et avant de vous rendre l'antenne, j'aimerais profiter justement de cette occasion pour remercier l'ensemble des professionnels qui travaillent au quotidien sur cette thématique qui n'est pas simple, donc qui peut également je voulais leur apporter mon soutien, ma reconnaissance et leur dire merci.
Le message est passé, merci à vous. Demain dans Séquence Midi, on parlera du plan climat air énergie territorial. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous cinéma avec Erwan, service civique au cinéma Le Dietrich. Et aujourd'hui, pas de sortie, mais des reprises de films.
Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de commencer en vous disant que tout vient à point à qui s'attendre, parce qu'on vous avait dit d'être patient le mois dernier, et j'espère que vous l'avez été. parce qu'ils sont là, au Dietrich, tout le mois de décembre. Les films Jurés numéro 2, peut-être le dernier film du vétéran hollywoodien Clint Eastwood, et l'un des films les plus clivants de l'année, j'ai nommé The Substance de la française Coralie Farja. Alors pourquoi on rattrape ces deux films au Dietrich ce mois-ci ? Eh bien c'est bien simple, ce sont deux propositions marquantes de cette fin d'année qui regorgent de qualité et qui ne peuvent pas vous laisser indemnes. D'un côté, on a Juré numéro 2, sorti un peu en catimini fin octobre, mais qui a pu se démarquer grâce à un bouche-à-oreille remarquable. Si vous n'en avez pas entendu parler, pas de panique, vous pourrez retrouver au Dietrich cette histoire d'un procès pas comme les autres, dans lequel l'un des jurés se demande si le coupable de l'affaire de meurtre qu'il a pour mission de juger n'est autre que lui-même. Alors vous l'aurez compris, c'est une histoire de dilemme moral, de savoir définir où se trouve la justice, ce qu'elle est véritablement, et bien sûr une nouvelle occasion pour Clint Eastwood de prendre le pouls d'une Amérique plus divisée que jamais. Alors l'âge du monsieur ici n'est à aucun moment un frein, puisque vous le verrez, il fait encore une fois preuve d'une précision éclatante dans sa mise en scène, pour aussi classique qu'elle soit, elle n'est jamais en décalage ou en retard par rapport à ce qui se joue à l'écran. Il magnifie d'ailleurs des acteurs et actrices que l'on retrouve trop peu à l'écran, comme Nicolas Hoult, Toni Collette ou même Kiefer Sutherland, et ce serait donc criminel, vous l'aurez compris, c'est scripté, criminel en rapport avec la justice, de manquer ce film en salle. Et puis d'un autre côté, on a le gore, le sublime, mais pourtant le très drôle The Substance, la grande claque du dernier festival de Cannes, qui n'est malgré cela reparti qu'avec le prix du scénario, mais déjà une réputation qui en a fait l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Alors au final, c'est quoi le résultat ? Eh bien le résultat, c'est un film inclassable, provocateur, sans concession, qui se permet tout, tout le temps, et qui va puiser dans un immense bac à sable de références. Alors on passe par le Kubrick, le Cronenberg, tout ça mélangé à la sauce Coralie Farja, et peu importe que le spectateur n'ait pas les références, on passe vraiment un vrai moment de cinéma devant le film. Je vous rappelle rapidement de quoi parle le film. On suit Elizabeth Sparkle, une ancienne reine du gym tonic télévisé qui, pour retrouver une dose de jeunesse, se laisse porter par une substance qui lui promet monts et merveilles. Alors tout ne va pas se passer comme prévu, bien sûr, et si la liste des effets secondaires n'est pas explicitée dès le début, nous allons très vite comprendre pourquoi il fallait respecter les précautions d'usage de ce produit. Donc le film ne brille pas spécialement par sa structure, qui est plutôt programmatique. C'est un comble quand même pour avoir remporté le prix du scénario, je trouve. Mais on comprend dès le début par quelles étapes obligatoires on va passer. Alors j'aime bien comparer le film souvent au Gremlins, parce qu'au final c'est un petit peu la même chose. Au début on a des règles à respecter, puis on en vient à s'en affranchir, et finalement on voit les conséquences catastrophiques que ça engendre. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, de ce type de scénario, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le film vous demande un petit peu de lâcher prise. Alors, si vous acceptez de passer ce pacte avec le film, je vous promets une expérience sensorielle unique et un final explosif au sens propre et au sens figuré qui vous laissera des images ancrées dans votre mémoire pour très, très longtemps. Je précise toutefois, bien sûr, que le film est interdit au moins de 12 ans et que même s'il est plutôt médiatisé, il n'en reste pas moins un film assez violent et trash destiné à un public averti. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse, on vous attend nombreux et nombreuses au Dietrich pour découvrir ou même redécouvrir, si vous les avez déjà vues, ces propositions uniques, et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le film Les Reines du Drame est toujours à l'affiche dans notre cinéma et que si vous n'êtes pas encore venu prendre votre dose de nostalgie des années 2000 et chanter Patouche à vous en déchirer la voix dans notre salle, il n'est pas trop tard.
Merci beaucoup pour toutes ces recommandations cinéma et on vous retrouve dès la semaine prochaine. Tout de suite pour vos autres idées sorties, c'est l'agenda. Dernier jour pour découvrir l'exposition 50 ans de slogans féministes par les Moujas, un hommage au combat féministe avec affiches en vente au profit de l'association Mémé Marcel. Noël à l'abbaye de Saint-Savin, plongé dans l'histoire avec des visites théâtralisées et rencontrer l'inventeur Félix Léon Hédoux et son épouse Amélie à 15h. La réservation est conseillée. Dans le cadre du festival Écoutez voir aux Trois Cités, Lumière d'automne au logis d'Osmo à 16h30, un moment musical offert par les élèves clarinettistes de Marion Dreyer. C'est gratuit. À la boutique éphémère à 17h30, lancement des animations ludiques par Papiol. Rendez-vous pour des jeux de société en après-midi durant tout le mois. Papiol investit le centre-ville avec Youpi Jeux Recycle. Découvrez des jeux de seconde main à la boutique éphémère et soutenez l'emploi local. C'est ouvert du mardi au dimanche et c'est l'occasion de faire un geste solidaire en cette période festive. Et puis, conférence des carrefours de la santé pour la première fois à Châtellerault, à la salle de la Gornière, dès 18h30. Le voyage au centre du cerveau avec des experts du CHU de Poitiers. Et enfin, aujourd'hui débute le Festival des Insouciants, 8e édition, rendez-vous incontournable des passionnés de cirque contemporain, orchestré par le Théâtre des 3T et l'École nationale de cirque de Châtellerault. Sur Pulsar, retrouvez à 21h l'Indépendance, à 23h Sonokino, consacré à Yann Pilas. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve demain dès 12h30 pour un nouvel épisode de Séquence Midi.